I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast TFTC, format habituel, on vous conseille trois films. Aujourd'hui avec moi, on a Mehdi. Comment tu vas Mehdi ?
Eh ben je vais super bien depuis Lille, je suis en pleine forme.
Mais là, aujourd'hui, t'es en mode très sérieux.
Oui, aujourd'hui, j'ai préféré changer un petit peu de style, de style.
Ouais, il est sérieux, t'as vu, il est sérieux.
On dirait qu'il traîne à Saint-Germain-des-Prés.
Ouais, il est habillé en petite chemise blanche et tout, il est en mode sérieux.
Ma chronique sera sérieuse.
Et ah, j'ai cru qu'il disait que j'étais macroniste, macronique, il a dit. Mais c'est vrai que t'as un petit style Macron, là.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais. Un petit style macroniste. Ouais.
T'as un style d'être né dans le 17e avec un petit pull sur les épaules.
Pour qui je vote, à votre avis ?
Oh, bah, tout le monde le sait.
Ah.
Quoi ouais, pas besoin
non,
de le dire.
Non, mais attendez, non, mais en fait, je pense qu'on est vraiment. Alors, Johan, je sais pas. Mais en tout cas, avec Mehdi, on est vraiment deux cas. On n'a jamais voté notre vie une seule fois.
Jamais. Voilà.
Bah, écoutez,
jamais.
Anecdote incroyable.
Mais on a un avis quand même.
Ouais, oui, on a un avis.
Bah, mais vous le gardez pour vous.
On le garde pour nous.
Alors que, ouais, non, moi je vote depuis toujours, depuis que j'ai 18 ans.
Toi, tu votes, toi ?
La première fois que j'ai voté, figurez-vous que c'était en 2002 pour les élections présidentielles. Où c'est là que notre ami Lionel Jospin avait perdu au premier tour.
Mmh. Ah oui, d'accord, tu t'es inscrit l'année où Le Pen est passé parce que tu voulais le soutenir.
Oui, effectivement.
Mais voilà, non, mais je comprends, ouais. je vois la corrélation. Vous avez reconnu, c'est Johan qu'on a avec nous.
Eh oui, salut les enfants.
Ouais, tu vas bien ?
Ouais, super, ma foi, écoute, je suis ravi d'être là dans cette ambiance intimiste qui change du dernier podcast auquel j'ai participé.
Très bien, donc aujourd'hui, format 3 films, on va vous conseiller 3 films. On va commencer avec mon film, figurez-vous. Et Johan, ça va te faire plaisir, figure-toi, parce que c'est un film qu'on a découvert ensemble au cinéma.
Est-ce que c'est... Attends, je peux deviner ou pas ?
Ah vas-y, c'est de deviner, c'était en 2012.
En 2012, est-ce que c'est le film sur le volcan avec José Garcia ?
Non, mais...
Avec Danny Boone, pardon.
Oui, non, il y a une période où on allait voir tout, à peu près tout.
On a même vu Les Seigneurs.
Oui, on a vu Les Seigneurs, mais on a passé un bon
moment. Ouais. Ça me tente, moi, ce film.
Franchement.
C'est le film avec Ramsey qui fait footballeur avec Gad Elmaleh.
Ouais, en fait, on a retenu qu'une seule chose avec Jean-Baptiste, c'est qu'à un moment donné, t'as des coupures de presse qui apparaissent à l'écran.
Le meilleur van.
Et il y a Patrick Orbera, qui est le footballeur incarné par José Garcia, qui dit Patrick Orbera, je veux tout gagner.
Non, mais en fait, c'est drôle parce qu'on voit le Parisien, mais si c'est même pas une vanne que les gens ont marqué dans la
non,
salle.
Non, c'est même pas une vanne surtout.
Juste, on voit le Parisien pendant deux secondes à l'écran et marqué entre parenthèses, je veux tout gagner. C'est drôle.
C'est le seul truc qu'on a retenu.
Non, c'est un film qu'on a vu ensemble en 2012
attends.
Et que j'ai adoré. Non, mais attends, mais on a vu trop de films.
Donne-moi une chance. Je sais que je peux le trouver.
Vas-y.
Est-ce que c'est Japlou avec Guillaume Canet ?
Non, alors il me lance sur des anecdotes. En fait, on a la carte UGC avec Johan, et un jour il avait la chiasse.
Non, raconte pas ça comme ça.
Vas-y.
Non. Parce que avec Jean-Baptiste, on avait l'habitude de se retrouver pour déjeuner, sauf que nous, on n'a pas déjeuné dans des restaurants fancy. On se retrouvait au Pizza Hut, que tu connais aussi, Mehdi, pour manger des pizzas à volonté.
C'est vrai qu'il y avait ça à
l'époque. Voilà, mais ça n'existe plus, ça.
Non, ça n'existe plus. Et c'est un drame. Et en gros, on comptait les croûtes de pizza, un peu comme Astérix et Obélix comptait les casques de Gaulois.
Bon, on empilait les croûtes.
Et ensuite, on faisait une balade dans Paris pour éliminer tout ça. Sauf qu'un jour, en fait, on se balade et on arrive vers Opéra. Et là, j'ai une goutte de sueur sur le front.
On la connaît, cette goutte de sueur.
Sauf que qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en même temps, Jean-Baptiste a aussi cette goutte de sueur.
Pardon, non, c'était que toi, je crois.
Non, c'est toi aussi. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas enchaîner. On avait la carte UGC et on est allé prendre des places pour un film, le premier qui passait, à savoir le Japlou, pour pouvoir évacuer cette chose-là.
Et depuis, c'est devenu une expression, quand t'as la chia, c'est une Japlou.
Une Japlou.
c'est un film avec Guillaume Canet à la base.
Ouais. Il y a un truc drôle, quand t'as une petite goutte, là, comme tu dis, préparatoire. Le moindre truc que tu regardes, ça accélère la chia.
Alors c'est très vrai ce qu'il dit.
Le moindre truc.
Quand t'as un début de chiasse, mettons, tiens, est-ce que tu peux raconter cette anecdote sublime sur la polonaise? Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Ouais, parce que moi, quand ça m'arrivait, pas souvent, mais quand ça m'arrive, des fois, c'est souvent dans des dates.
Ah oui?
Ouais.
Oui, parce qu'il y a une petite pression.
Non, mais je sais pas pourquoi. Ouais, ce jour-là, en tous les cas, j'avais un truc, quoi.
Tu prends pas t'essaies pas de faire ça avant, quoi.
Non, mais des fois, c'était de
ouais, avant, te prend d'un coup.
Avant, t'es bien, et puis, je sais pas, tu bois un verre d'eau avant d'y aller, et puis le loup était je sais pas quoi.
Ouais, et donc, t'es avec cette polonaise
ouais.
dans un café.
Ouais. Et là, me vient l'envie, en fait, de chier en fait. Et en fait, donc je l'écoute, moi je tiens, j'essaie de tenir parce que t'arrives quand même un peu à contrôler le truc pendant, avant que ça parte au maximum. Tu tiens, ouais. tu tiens. Et à me déblatérer ces histoires de polonaise, quoi.
Donc, qui, c'est quoi l'histoire de polonaise? Ce qui est marrant, c'est que, et il disait, dans mon enfance, à Dniepropetrovsk.
Et chaque mot comme ça me mettait au fond et accentuait et accélérait le truc.
Ça t'a déclenché. Ah, au secours. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Parce que c'est encore pire. Parce qu'on va aux toilettes en même temps. Et on va dans les toilettes du cinéma. Bon. Et lui, il termine avant moi. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, ce bâtard?
Mais tu sais, j'en doute parce que moi, je vais jamais dans les toilettes publiques.
Non, mais
je crois que c'était que toi.
Non, j'ai une mémoire, mon gars,
ah, ouais.
Surtout là-dessus. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la porte pendant qu'il y avait des gens qui patientaient dans les toilettes. Hein, et en fait, il a mis des coups sur la poignée. Il a tapé, Excusez-moi, monsieur, vous avez terminé. Et en fait, j'ai dû sortir. Et là, les meufs m'ont regardé, mais consternés.
La honte, n'est-ce pas?
C'était une honte absolue.
Non, mais récemment, j'ai couru à Lille. On était à Lille pour le podcast. Et le dimanche, j'ai couru. Ouais. Et avant de courir, Mehdi, t'étais avec moi à l'hôtel. Et j'ai commencé à me sentir pas bien aussi. Et en fait, il y avait une sculpture de tigre en métal dans l'hôtel.
Et ça, je lui ai dit, ça, je sais par expérience que tu regardes ça.
Ça c'est un élément déclencheur.
Il y avait aussi une petite vitre avec des vêtements qui vendaient, ouais, mais ouais, des vêtements de bourgeois avec des petits papillons bordeaux et tout.
Le moindre truc accélère. C'est incroyable. Et pourquoi c'est quoi? Pourquoi ça le fait à tout le monde en fait? Donc pourquoi c'est quoi ce
syndrome? C'est parce que les gens sont là pour écouter des conseils de films. ça parle de chiasse depuis.
Bah non, on a parlé de Japlou, donc ça marche.
Oui, alors tu vois, on a digressé à fond, mais du coup t'as toujours pas trouvé le film dont je vais parler et qu'on a vu ensemble en 2012.
Allez, donne-moi un indice, j'ai envie de jouer un peu.
Alors ok, c'est un film d'action.
Un film d'action qu'on a vu ensemble.
Voilà.
Est-ce que c'est pas La Chute de la Maison Blanche?
Non, mais je vais te le dire, ce film c'est End of Watch.
Ah,
c'est le film dont j'ai envie de parler aujourd'hui. End of Watch est sorti en 2012, donc c'est avec Jack Gyllenhaal et Michael Peña. Si vous ne le remettez pas, Michael Peña, il a joué dans World Trade Center d'Oliver Stone et dans plein d'autres films. Il a joué dans 1000 films.
Ant-Man.
Bien sûr.
Hyper drôle.
Et donc voilà, c'est un film qui est réalisé par David Ayer. Pour ceux qui ne connaissent pas David Ayer, c'est tout simplement le scénariste de Training Day, qui a ensuite été réalisé par Fuka et qu'on adore, Training Day, ici. Et par la suite, il s'est essayé à la réalisation. Alors, il a tourné des films comme... déjà, il avait fait un film qui s'appelait Bad Times en 2005 avec Kristen Bell, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, quand on voit Bad Times, on comprend un peu ce qui l'a amené à faire End of Watch, parce que c'est un peu le même style, Bad Times. Donc voilà, il y a ce film, il a réalisé ensuite Fury, qui est un film que j'aime beaucoup avec Brad Pitt et Shia LaBeouf.
Je l'ai pas vu.
Super, qui est sur Netflix, je crois.
Ouais, il paraît qu'il est top, mais j'arrive pas.
Très bon film. Moi aussi, j'ai mis du temps à me lancer, mais en fait, quand tu te lances, c'est cool.
Ouais.
Et surtout, il a réalisé Suicide Squad, qui était un peu son gros film après les...
Quelle déception.
Bah ouais, mais c'est... Et d'ailleurs, depuis, il fait plus...
Et tu sais qu'on avait vu un film de lui, d'ailleurs, ensemble au ciné, qui était très très mauvais, avec Arnold Schwarzenegger.
Bien sûr, c'est...
J'ai même plus le nom,
tiens. Ah putain, comment ça s'appelait Ah putain, c'est en un mot.
Oui, tu le rajouteras au montage.
Non,
après Suicide Squad, vous, ça vous a déçu, mais ma fille, elle a regardé.
Ouais, les enfants adorent.
Les enfants adorent. Des fois,
mais
tu vois,
je pense que les enfants aiment surtout Harley Quinn.
Ouais, elle
c'est ça aussi. Nous aussi, les adultes, on aime bien Harley Quinn.
Ah, quel porc. Pardon, comment en fait?
Quoi?
Pardon?
Mais non, mais je trouve que le personnage est hyper bien écrit.
Ah, le personnage, ok, d'accord.
Non, mais il est hyper bien incarné par Margot Robbie.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pensez du Joker avec Jared Leto? Moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais. C'est une autre, un autre délire.
Apparemment, c'est censé être un des pires Jokers.
Ouais, c'est un peu gênant. Et en même temps.
Ah, mais tu l'as pas vu, toi, JB, alors, Suicide Squad? Bah.
Il est gênant et en même temps tu comprends l'approche. Ils ont voulu faire un truc un peu gangster,
ouais.
Mais ça marche pas, quoi. Mais c'est pas le pire. Pour moi, le pire c'est Joaquin Phoenix. Bon voilà, on a assez digressé.
Bon arrête, non, t'es dur. T'es très très dur.
J'aime bien faire des avis définitifs.
T'es très très dur. Mais donc voilà, et donc il a effectivement réalisé ce film avec Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, il me semble que c'était le retour de Schwarzy après la politique. C'était pas son premier film, il me semble, peut-être.
Je suis pas sûr, mais peut-être, ouais.
Et donc voilà, et donc au milieu de tout ça, il a réalisé un film qui s'appelle donc End of Watch. End of Watch, c'est l'histoire de deux flics dans les quartiers très très durs de Los Angeles. Donc deux flics incarnés à l'écran par Jack Gyllenhaal et Michael Peña. Et en fait, on suit le quotidien de ces deux flics, très souvent qui règlent des affaires entre gangs dans les rues de Los Angeles. Donc je crois qu'il y a les Bloods, c'est ça, j'oublie le nom des
gangs. Et les Crips.
Et les Crips, les oui. Bloods et les Crips, ouais. C'est ça.
Faut donc, pas se balader.
Je crois qu'ils ont genre bandana rouge et bandana bleu.
Exactement. En fait, ça c'est dans GTA, mais ça marche aussi.
Oui, oui, bien sûr.
Non, et non, donc, c'est vraiment ça.
Oui, en vrai aussi. Et oui, non, mais c'est une blague.
J'ai regardé Mehdi consterné. Je fais, oui. Oui, vas-y.
Et donc voilà. Et donc en gros, un jour, il s'attaque à une affaire ils dépassent un peu leur stade de flic et en fait ils se rendent compte qu'ils entrent comme ça dans un truc de trafic d'humains avec un cartel, donc ça les dépasse un petit peu et tout. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai envie de parler de ce film aujourd'hui, c'est parce que je crois que de mémoire, c'est le dernier grand film d'action que j'ai vu dans ma vie, vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas souvenir d'un film d'action qui m'a autant porté depuis 2012. J'ai essayé de chercher depuis hier, je me suis dit, attends, un film d'action vraiment que t'as adoré. Est-ce que tu en as en tête d'ailleurs, Joanne, les films d'action depuis 2012 mais vraiment, End of Watch.
Le truc, c'est que maintenant, t'as pratiquement...
Mehdi, il en a un, Mehdi.
Ah, vas-y, Mehdi.
Avec Jason Stratham.
Stratham. Bah, t'as les Expendables, surtout le 2.
Ouais, mais.
Non, c'est pas Expendables. Moi, c'est le. Comment il s'appelle?
Oui, mais ça, c'est avant 2012, je crois.
C'est avant 2012, ça?
C'est quand il se.
Comment il s'appelle ce film?
Comment il s'appelle ce film, tu sais, où il se régénère avec de la.
Hypertension.
Hypertension.
Oui, mais qui a réalisé le riff, je crois que c'est David Leitch. C'est le mec après qui a fait. Le film du train avec Brad Pitt, là, que j'ai pas trop kiffé.
Ouais, moi aussi, j'ai pas trop kiffé.
Ça me parle chaud.
Non, mais je crois que c'est avant 2012, ça m'a dit, ce film.
Mais il est super.
Mais c'est 2008, ouais, un truc comme ça. Mais ouais, ouais. Non, parmi les dernières franchises, franchement, John Wick, c'est hyper efficace, quoi.
Bah, c'est efficace, mais...
Mais c'est trop propre.
Mais en fait, oui, mais c'est efficace.
Non, t'as raison. Moi, j'ai vu que le 4, je crois, ou le 5.
Oui, on l'avait vu en
C'est lequel qu'on a vu ensemble, c'est le 4.
C'est le dernier.
Le dernier, c'est le 4, ouais.
Le 4, non, mais en fait, alors, les scènes d'action sont satisfaisantes.
Voilà.
C'est, parfois, c'est les montagnes russes et tout, donc c'est vraiment un parc d'attraction. Sauf que End of Watch, ça semble réel.
Oui, c'est que John Wick, ça raconte rien, en fait, en vrai.
C'est ça, End of Watch, ça raconte quelque chose.
Ouais, je suis d'accord.
Et donc, voilà, donc ça, en gros, c'est l'histoire de End of Watch. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que c'est pratiquement filmé, t'en souviens, Johan, quand found footage.
Oui.
C'est-à-dire que pratiquement tous les plans, ça va être la caméra que les flics ils ont sur leur uniforme.
Exactement.
Ça va être la caméra qu'il y a sur la voiture de police avec la date et tout, machin, etc. Donc pratiquement tous les plans, ça va être ça. Et quand c'est filmé, caméra à l'épaule, ça va être vraiment incisif, près des visages, donc vraiment un truc d'action, etc. Très brut.
Hyper
très
nerveux, brut, quoi.
Très nerveux.
Ouais.
Et donc voilà, et en fait, du coup... Le résultat, c'est qu'on a l'impression qu'on y est. On a l'impression que c'est hyper réaliste. Limite, on a l'impression qu'on suit un documentaire, tu sais, comme la série Cops.
Oui, exactement.
Ouais, donc on a l'impression que c'est un peu la série Cops, etc. Et en fait, on a vraiment le sentiment que ce qu'on voit existe. Et après, je me suis un peu renseigné sur le film. C'est inspiré de deux vrais flics.
Ah, donc,
tu vois, il y a vraiment un truc un peu...
Et qui ont connu le même destin.
Tu vois, qui
ça me fait penser à Chips. Ce que tu me racontes. Chips.
Alors, pour ceux qui n'ont pas la rêve, Chips, c'était une série télévisée dans les années 80. Où c'était deux flics
en moto.
Et l'anecdote que j'ai qui est très drôle, c'est qu'un des deux flics qui s'appelle Eric Estrada,
oui,
est devenu un vrai flic dans la vie.
Ouais, c'est fou ça.
Ouais, il a fait la série, ça lui a donné envie d'être flic. Et il a prêté serment il y a quelques années et maintenant c'est un flic. Maintenant, c'est trop bien.
Il n'y a pas eu un remake avec le mec de
Si, je pense que c'était un peu à cette époque où il y avait des remakes de toutes ces séries-là. Il y avait un remake de Starsky Hutch, il y avait un remake de Sheriff Fais-moi peur.
Mais je l'ai vu et j'ai. Enfin, c'était vraiment pas bon quoi.
Ah ouais, c'est pas bon.
Ouais.
Ok, en tout cas, voilà, encore une fois, dans cette idée de réalisme, Jack Gyllenhaal et Michael Peña, ils ont passé, je crois que c'était 12 heures par jour pendant 5 semaines avec des vrais flics de Los Angeles. Donc vraiment, quand tu vois le film, t'as l'impression de voir des vrais flics, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et puis aussi, ce que j'aime avec les réals de David Ayer de cette époque, je parlais de Bad Times avec Christian Bale juste avant, pareil avec End of Watch, si tu t'en souviens, c'est vraiment, tu sais, c'est genre coucher de soleil de Los Angeles, un peu crasseux dans les quartiers, genre un peu avec des latinos, machin et tout.
C'est l'ambiance est hyper bien retranscrite. Et grave. C'est trop bien.
C'est, et tu sais, c'est pas cliché, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Et moi, je me souviens, quand j'avais vu ce film, du coup, en 2012, j'étais sorti de la salle et je t'avais dit, waouh, putain, je m'attendais à rien en allant voir ce film. Je m'attendais à voir un petit film d'action et tout. Et j'avais pris une vraie claque parce que vraiment, c'était de l'action pure et dure, quoi.
Et t'as vu la même réaction en sortant de Japlou, quoi.
Bien sûr, c'était bien sûr.
Et quand vous allez au cinéma tous les deux, vous prenez quoi, des pop-corn
Non, écoute, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma ensemble. Quand est-ce qu'on allait voir
ça fait un petit moment.
Bah, en vrai, c'était le film de Xavier Legrand,
je crois. Ouais.
Mais avant, on s'était fait, fait un petit truc.
On y allait hyper souvent, fut un temps, mais on allait voir des très mauvais films. Enfin, ce qu'on estimait être des films pendant lesquels on pouvait parler.
Oh, on allait tout voir quand même. On allait voir des bons films aussi.
Oui, oui, on a vu quelques bons films, mais on a vu quelques bons gros nanars quand même.
Ouais, bien sûr. Et donc voilà, donc, c'est un film que j'adore. Figurez-vous que le mot fuck est balancé 326 fois dans le film, ce qui le fait entrer dans l'histoire à la 10e place des films où il y a le plus le mot fuck. Je crois que le premier, c'était pas Les Affranchis, je crois. Un délire comme ça.
Fuck, yeah.
Ouais, voilà, je crois que c'était un Scorsese. Forcément, il y a un Scorsese dans les trois premiers, c'est sûr. Ouais. Et voilà, pareil, tu sais, il y a pas mal d'improvisation entre les deux acteurs. Donc il y a vraiment un truc où quand tu regardes le film, t'as l'impression de voir une vraie enquête de flic. Midi, je suis sûr que t'adorerais ce film, c'est vraiment bien. Moi, je l'ai revu en DVD il y a quelques jours, donc. Je ne sais pas sur quelle plateforme il est dispo, perso. Voilà, ce que je sais, c'est que ça avait été une bonne surprise en 2012. Il avait été tourné pour un budget de 7 millions, parce qu'évidemment, c'est pas mal de found footage, donc très peu de budget. Il avait engrangé 60 millions, c'était des bonnes critiques. Vraiment, c'est une réussite. Si vous voulez voir un vrai, vrai bon film d'action, sans pour autant un film, tu sais, ambiance testostérone, Rambo, Schwarzenegger, etc. C'est un vrai film d'action réaliste. Regardez End of Watch. J'adore ce film. Et je lui mettrai la note de, figurez-vous, eh bien 8 sur 10 dans son genre.
Ah, quand même, pas mal, dis donc.
Non, mais franchement, j'adore ce film. Je l'ai revu avec un grand, grand plaisir.
Ah, tu m'as donné envie de le revoir. En
vrai. J'ai pris un gros plaisir. Vraiment, regardez End of Watch. Et pour la musique, je vais vous conseiller un son. Alors, Mehdi connaît mon passé R&B. Tu connais mon passé R&B, Mehdi?
Oui, bien sûr.
Willie Denzey.
Tu sais que quand j'étais...
Non, c'était pas Willie Denzey. Il y avait qui
Bon, toi, c'était... Il y avait 112.
R. Kelly, c'est mort.
R. Kelly. Non, j'adorais R. Kelly.
Allez, vas-y, bah, voilà, on le dit. Ouais, t'assumes. C'est... Moi aussi, j'adore.
Voilà. Non, mais voilà, j'assume.
Moi aussi,
j'adore R. Kelly.
P. Diddy, vous aimez bien ou pas?
Non, parce que P. Diddy dans la sauce en ce moment aussi. Comme R. Kelly. Mais non, en fait, le double album, là, Rouge et Noir.
Ah, celui-là, c'était vraiment ton album, ça.
Franchement, les sons sont incroyables à l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'on cautionne ce qu'a fait le gars. Mais non, j'étais très à fond dans R&B, genre 112, bah ouais, R. Kelly, tout ça. J'ai eu ma phase très R&B.
Montel Jordan,
bien sûr.
Genuine.
Évidemment.
Oui, ça, c'est un peu plus tard, ça. Non, si, c'est la même période. Ouais.
Et donc, voilà. Et en fait, quand je suis allé à New York pour la première fois en 2000, j'ai acheté dans la rue. À l'époque à New York, dans la rue, ils vendaient des faux CD avec des jaquettes mal imprimées, etc. Et j'avais acheté un album d'une chanteuse.
Montel Jordan.
Non, c'était pas ça. On l'a dit, Montel Jordan. Mais c'était une chanteuse R&B qui s'appelle Kelly Price. Et voilà, j'avais acheté son album. Et en fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle You Should Have Told Me. Et voilà, c'est le titre. I wouldn't call in the midnight hour. I wouldn't tuck you in and turn the nightlight out. You would walk through the door and I wouldn't say hi. I would walk out the door and wouldn't say bye-bye. It's funny that I never thought about it that way. I never knew the things that I did not say. But you were lonely and you were hungry. And I was living in my own world thinking I'm a perfect lady. You should have told me I wasn't small enough. You should have told me I didn't call. But you led me on and kept me gone. And we never should have wasted this time. On va enchaîner avec le film de Johan.
Écoutez, alors vous le savez, vous qui me connaissez bien tous les deux, Jean-Baptiste et Mehdi, je viens du Sud, je viens de la province, je viens de Perpignan. Et autant vous dire que dans les années 90, parce que je suis arrivé à Paris en 99, bah c'est vrai que l'accès à la culture, et en tout cas à une certaine culture, était un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, pour avoir des films un peu pointus, bon, bah j'avais Canal+, avec certaines séances, et musicalement, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Jean-Baptiste, et toi aussi, Mehdi, il y avait sur M6, le soir, très tard, il y avait une sélection de clips dans M6, l'alternative. Je ne sais pas si tu te rappelles
bien
de
sûr,
ça.
Et moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je me faisais des cassettes de clips. C'est-à-dire que j'enregistrais les clips que j'aimais bien. Tu te rappelles, Mehdi?
Ouais, mais tu te faisais aussi des cassettes de Sexy Zap.
Pardon.
Oui, bon, on sait pourquoi on enregistrait à la base, hein, les gars. Et donc c'est vrai que l'alternative, ça avait participé un peu à ma culture musicale autre que celle qui nous était offerte à l'époque, qui englobait les To Be Free et compagnie.
Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que quand tu parles de cette époque de clips sur M6 le soir, ouais. Le premier clip qui me vient en tête, c'est Belzance Bring Down. Tu vois.
Ah ouais,
c'est vraiment cette ambiance, ouais, quoi, tu vois, cette époque.
Bah moi, c'est Aphex Twin plutôt.
Ok.
Avec les visages là, complètement ouf et tout. Bon voilà. En tout cas, tout ça pour dire ça, c'est que ça a participé à un certain goût de la culture. Et il y avait un magazine que j'adorais, c'était Nova Magazine, qui était le magazine qui était issu de la Radio Nova, qui existe encore aujourd'hui. Le magazine n'existe plus aujourd'hui, mais il mettait souvent l'honneur des écrivains. Et j'ai découvert un écrivain à l'époque, j'avais une quinzaine d'années, c'était Bret Easton Ellis. Et donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un film qui est tiré d'un des romans de Bret Easton Ellis, et ce film, c'est Les Lois de l'Attraction.
Ah mais oui, mais je me souviens que c'était ton film. Alors Mehdi, je sais pas si t'en souviens, mais quand on a rencontré Johan au début des années 2000, on parlait un peu cinéma à l'époque, et je me souviens, j'ai un vrai souvenir de ça. Tu m'avais dit mon film préféré, c'est Les Lois de l'Attraction.
Ah, j'avais beaucoup aimé.
En 2000, c'était ton film préféré.
Ah, je l'ai vu un nombre de fois considérable. C'est un des premiers DVD que j'ai acheté avec des versions un peu rated R. Donc autant vous dire, avec des scènes assez farfelues. Et donc ce film, je l'ai adoré. Alors
avec Dawson.
Et exactement. Alors, pour vous présenter ce film, alors déjà, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est réalisé. Donc, c'est un film qui date de 2002, qui a été réalisé par Roger Avary. Roger Avary, vous le connaissez parce que c'est un bon pote de Tarantino.
Bien sûr.
Et il avait réalisé un film que moi j'aime bien, qui en tout cas qui m'avait marqué dans les vidéoclubs à l'époque, c'était Killing Zoe. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film, un film de braquage en France.
Bien sûr. Et Roger Avary était employé du vidéoclub dans lequel bossait Tarantino.
Exactement.
Et aujourd'hui, ils ont un podcast ensemble qui est très cool.
Ah bah, je savais pas.
Bah, tu vois, ils ont un podcast où ils parlent de films les deux.
Ah bah, ils nous ont copié, c'est ça?
Mais grave.
Putain, les bâtards. Et bon, bah voilà, en tout cas, pour revenir sur ce film, donc Les Lois de l'Attraction, c'est un film donc, qui est sorti en 2002 et ça se passe au Camden College dans le New Hampshire. Et en gros, on va suivre les aventures d'étudiants qui vivent en fait surtout en dehors de l'établissement. Il y a beaucoup de fêtes, c'est un peu un esprit un peu débauché qui y règne. Et on va suivre le destin de trois personnages, pardon, à savoir Sean Bateman, qui est un peu le tombeur, qui est incarné par Dawson dans un rôle un peu à contre-emploi. Et c'est ce qui fait aussi une des forces de ce film, c'est qu'on va retrouver des acteurs qu'on voyait dans les séries pour les ados, mais dans des rôles complètement à l'opposé.
Exactement.
C'est-à-dire que, en fait, Dawson, tu vois, c'est un fragile, quoi.
Dawson, c'est le genre idéal.
Exactement.
Et là, c'est un baiser.
Ah ben là, c'est un gros baiser, effectivement. Et surtout, donc, c'est un tombeur, un baiser, c'est aussi un dealer. Il y a aussi un autre personnage qui est incarné par Ian Somerhalder, qu'on a vu dans Lost de mémoire, qui est donc Paul Denton, qui lui est un personnage bisexuel. Il y a aussi Lorraine, qui elle est incarnée par une actrice que j'adore, qui est Shannon Sossamon, qu'on n'a plus du tout revue par la suite, en tout cas dans des rôles assez anodins. Et elle est amoureuse d'un personnage qui est parti en Europe, qui s'appelle Victor. Bon. Et en gros, on va suivre les tourments amoureux de ces trois personnages, avec d'autres personnages qui vont graviter autour. On va suivre tout ça le long d'une année scolaire dans cette université de Camden. Et en gros, c'est un film qui est inspiré de l'expérience propre de l'écrivain Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis, vous le connaissez aussi parce qu'il a écrit deux romans qui sont aujourd'hui cultes. Il a écrit American Psycho, qui a été aussi adapté au cinéma avec Christian Bale. Il y a beaucoup d'extraits aujourd'hui qui sont repris par les mascus sur YouTube, sur TikTok et sur Insta. Ouais. Donc un peu à contre-emploi de la vocation initiale de ce film. Donc American Psycho. Et le deuxième roman qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'était Glamorama. Glamorama, je faisais un peu comme toi, Mehdi, sauf que moi, je lisais vraiment les livres. C'est que je me le trimballais dans les rues et je m'installais au Café de Flore, parce que c'était ma grande période Café de Flore, vous savez, vous m'avez connu. Cheveux longs, veston velours, la fameuse, et je passais l'après-midi au Café de Flore. Sauf que moi, j'avais une technique pour passer l'après-midi au Café de Flore sans me faire virer, c'est que je commandais un Schweppes. Est-ce que vous savez pourquoi je commandais un Schweppes ?
Non.
C'est qu'en fait, le Schweppes, c'est bon, mais c'est pas bon. Donc en gros, parce que si tu commandes un coca, tu vas le boire en deux-deux, tu vois. Ouais. Alors qu'un Schweppes, tu veux juste boire des petites gorgées de
temps. Après, attention, parce que Mehdi est très très fort pour boire son coca lentement.
Oui, parce que Mehdi est radin.
Après, le Schweppes, t'aimes pas le goût amer, l'amertume.
Moi, j'aime les gens amers, mais j'aime pas trop l'amertume.
Non, mais le Schweppes, je n'aimais pas quand j'étais petit, et en vrai, en tant qu'adulte,
ça change.
Un petit oui, ça passe. Exactement, Mehdi a dit le bon mot, ça change.
Ça change.
Ça change. Et le Rickless aussi, moi j'aimais
bien. Non, ça non.
Moi j'aime bien. Et le Schweppes, c'est très très peu proposé, le Schweppes.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que toi qui as souvent des boissons chez toi, Mehdi, t'as du Schweppes parfois.
Mais sachez que le Schweppes existe en bouteille en verre.
Elle répond pas à mes questions.
Il n'y en a pas souvent.
Alors, figurez-vous que j'avais été invité par Schweppes, par la Villa Schweppes, pour aller à l'Alpe d'Huez il y a genre 2 ans. Et il y avait eu tout un truc où ils nous avaient fait goûter plein de Schweppes différents.
Ah ouais ?
Et en fait, ils nous expliquaient que Schweppes, ça existe. Moi, je pensais que ça existait depuis genre 1960.
Non, c'est hyper vieux.
En fait, ça existe depuis les années 1800, enfin, un truc comme ça.
Genre, c'était un Médoc.
Mais ouais, c'est ça, voilà, exactement.
C'est la quinquina dedans.
Exactement. T'es calé, toi, en Schweppes hein ?
Moi, je suis calé en tout.
D'accord.
Vous le savez, je suis une encyclopédie vivante, les garçons.
Ok.
Enfin, vous le savez depuis le temps. Pourquoi j'aime ce film ? Déjà, parce qu'il y a une esthétique qui est très early 2000. Je parle américain, j'espère que ça vous gêne pas. Et en même temps, c'est assez intemporel. Dans le sens où, si on le voit aujourd'hui, les thématiques qui sont abordées et même l'esthétique est encore contemporaine. Donc, en soi, c'est pas gênant. Juste, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas TikTok et il n'y a pas de téléphone portable. Mais en tout cas, ça n'a pas trop mal vieilli là-dessus. Ensuite, comme je le disais, il y a des acteurs qui sont à total contre-emploi. T'as donc James Van Der Beek, Shannon Sossamon, Ian Somerhalder. Il y a James Spader aussi, que j'adore et qui
joue dans Crash, non ?
Je dis une bêtise, pardon, c'est pas James Spader, je le confonds tout le temps avec Eric Stoltz. Eric Stoltz, autant pour moi.
James Spader joue dans Crash.
Oui, qui joue dans Crash de Cronenberg et plus récemment dans quelques séries. Vas-y, je t'en prie.
Sabotage, le film avec Schwarzy de David.
Ah ouais, écoute, t'as bien fait de chercher. Ouais. J'aurais pas retrouvé. Et puis, il y a quelques scènes cultes, dont une scène de dépucelage qui est sordide, mais qui, moi, m'a marqué pendant des années, mais qui mérite pas d'être vu, enfin dans le contexte du film en tout cas.
Mais dans mes souvenirs, alors peut-être que moi j'ai vu une fois les lois de l'attraction à l'époque, Il y avait une scène qui m'avait marqué où en gros il voyage en Europe et on voit baiser
partout.
C'est
exactement ce que j'allais dire.
Ouais. Une des meilleures scènes du film, non ?
C'est une des meilleures scènes du film que je vous invite d'ailleurs à chercher sur YouTube. Vous tapez les lois de l'attraction, voyage en Europe, vous retrouvez cette scène qui est culte. Et en fait, on suit le personnage de Victor Ward. À travers ses aventures en Europe, il va à Barcelone, en Italie, il va à Paris et il traîne dans un milieu un peu luxe, mode, etc. Il fait des rencontres complètement folles. Et en fait, c'est monté de façon très très cut, c'est hyper rapide. Et en fait, c'est inspiré, pour info, de Glamorama, son roman que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est hyper bien fait, quoi. Et cette scène, moi, m'avait beaucoup marqué. Donc c'est un film que j'ai revu, alors pas en DVD, mais par des billets un peu illicites. Bon, voilà. Mais c'est un film que je ne peux que vous conseiller. Je ne vais pas lui mettre non plus une note complètement folle. Je vais lui mettre un 7,5 pour la nostalgie.
C'est une bonne note.
Qui est déjà une bonne note, hein, mais un 7,5 plus pour la nostalgie, parce que c'est un film qui m'avait mis un peu le pied à l'étrier dans les films que je sélectionnais moi-même. Tu vois ce que je veux dire ?
Ça me fait penser, c'est un peu profil Sex Intention, le film, avec...
Non, pas du tout.
C'est pas le même esprit. C'est pas le même délire.
Beaucoup plus sulfureux, beaucoup plus intello aussi sur certains aspects. C'est un film, je te dis, c'est inspiré de Bret Easton Ellis. Adapté de Bret Easton Ellis. Donc t'attends pas à avoir une pantalonnade à l'American Pie. C'est pas du tout le propos. C'est un film qui est un peu sérieux. C'est une comédie dramatique. Hein. Et moi, en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'à cette époque-là, j'étais à la fac. Et donc j'avais en comparaison la fac américaine avec la fac française. Bon, ben en fait, la fac française, moi, quand je suis arrivé le premier jour, il y a une meuf avec juste une seule dreadlock et un sarouel qui me dit « Est-ce que tu veux participer au BDE ?» Et franchement, j'avais un peu la flemme.
Alors que moi, JB, on s'est éclaté, nous, à la fac, on a vraiment...
Vous étiez devant la fac, vous, en fait.
À la FNAC.
Vous êtes la queue.
On travaille.
Et puis, il y a une BO qui est complètement folle, qui va de... C'est très inspiré années 80, mais vous allez retrouver du Yazoo, du Serge Gainsbourg, enfin franchement... C'est top, le film, je ne peux que vous le conseiller. Je ne sais pas si vous avez envie de le voir, vous, mais...
Et alors, en parlant de conseiller quelque chose, quels sont tu nous conseilles ?
Ah, eh bien, je peux vous en parler. C'est un chanteur qui s'appelle, que j'ai découvert en fait en me baladant, si j'ose dire, sur YouTube, qui s'appelle Stevie Zita. Ce titre, c'est Alibaba. Et en fait, j'ai une anecdote avec ce mec. Une anecdote assez improbable, c'est qu'en fait, ce mec, je l'ai dessiné parce qu'il avait une esthétique qui m'inspirait. Et donc, je fais du dessin sur mes heures perdues.
Alors, est-ce que tu dessines d'ailleurs le week-end à Lille ?
Alors, j'ai commencé
parce que tu nous avais vendu ça.
Oui, nous avons. Parce qu'en fait, on est parti à Lille pour faire un podcast en public.
Ouais.
Et Johan nous a dit, je vais dessiner, faire une mini BD de notre week-end à Lille.
Je l'ai pas terminé.
Et nous, on attend ça avec impatience.
Alors, vous savez que j'ai de très grandes responsabilités dans ma vie professionnelle. Donc, je fais ça sur mon temps perdu. Et j'ai commencé. J'en fais une petite dizaine de dessins. Je vais publier ça bientôt. Vous le verrez.
Pour revenir, Mehdi a dit, ce sera à l'avantage de Johan.
Oui, on connaît le personnage, hein, c'est toujours.
Pour tout vous dire, je me suis rajouté des cheveux, j'ai retiré quelques kilos.
Bon, voilà. Ouais, voilà.
Et Mehdi, c'est tout le contraire.
Voilà,
et donc, en gros, ce mec-là, donc Stevie Zita, j'ai dessiné son portrait, j'avais publié sur Insta, il l'avait vu, il m'a écrit et il m'a dit le jour où je viendrai à Paris, on se verra. Et moi, je fais ok, why not ? Je me dis le jour où il fera son concert à Paris, je pourrais le rencontrer. Donc, c'était en 2019 et le mec m'écrit, il me dit oui, je suis à Paris bientôt et tout. Donc, on se retrouve et en fait, le mec faisait pas du tout un concert. Qui était juste à Paris avec sa meuf et je me le suis traîné toute une soirée de façon c'était un peu relou quoi en fait en vrai
mais il était sympa
ouais il était sympa on a discuté mais en fait c'était pas du tout ce que j'imaginais moi je m'attendais à ce qu'il m'invite à un concert même si c'était un petit chanteur assez anonyme
mais nous écouter le son de cet escroc
allez Stevie Zita avec son titre que j'adore Alibaba.
J'avais une anecdote similaire du temps où j'étais photographe. D'ailleurs, Mehdi et Johan m'accompagnaient parfois en backstage.
Quelle belle époque.
C'était une très belle époque. Et
moi,
donc...
j'ai regretté d'avoir raté Pete Doherty avec toi.
Pete Doherty, c'était incroyable. Déjà, je vois qu'il fait un petit retour. Il a fait une interview, il a fait un music club sur Combini. Moi, j'ai pris Pete Doherty quand c'était vraiment la méga star. Quoi. C'était vraiment le Pete Doherty et tout. Et en fait, je l'avais pris en photo dans ses loges. Après, alors c'était très compliqué de le prendre en photo parce qu'il est complètement à l'ouest. Et en fait, j'arrive dans la loge pour le prendre en photo et il y avait peut-être 8-9 groupies qui étaient là. Quoi.
Ah ouais.
8-9 meufs. Tu vois. Oui. Et il y avait une meuf qui lui caressait les cheveux, une meuf qui l'embrassait, il caressait les jambes d'une autre meuf. Tout. Enfin, c'était une sorte d'orgie.
C'est quoi. Pas très mitou tout ça.
Bah, non, mais après, les meufs étaient consentantes. Tu vois,
oui,
elles avaient le libre choix de le faire.
Bien sûr.
Et du coup, voilà, et moi, je dois faire les photos dans ces conditions-là, quoi, tu vois. Et donc, je vais le voir, et lui, il est avec trois meufs, et je suis en mode, on peut faire les photos, s'il te plaît? Évidemment qu'il n'a pas envie de faire les photos à ce moment-là, quoi. Tu vois. Et donc, j'ai dû un peu négocier, puis finalement, on les a fait dans un escalier, trois, puis pendant que je prenais en photo, il y avait des meufs qui lui caressaient les cheveux et tout, donc. Je sais pas, mais les photos sont cool quand même.
Ouais, les photos sont bien.
Tu sais que j'ai envie de te harceler parce que t'as quand même fait un nombre de photos considérable, mais quand est-ce que tu en fais quelque chose?
Ouais, non, mais en fait, oui, en fait, j'y pense. Pour l'instant, j'en fais rien, mais un jour, j'en ferai quelque chose parce que j'ai bossé avec tellement de groupes mais pendant 5 ans et ces photos, elles dorment dans mon ordinateur.
Jared Leto.
Mais tu vois, ton histoire avec ce chanteur que tu viens de citer. Ça me fait penser à un truc qui s'était passé avec Mac DeMarco, pour ceux qui connaissent Mac DeMarco. En gros, c'était un de ses premiers concerts en France. Je le prends en photo et en fait, il était complètement déprimé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Mac DeMarco, pour ceux qui connaissent, c'est un type qui est toujours très solaire sur ses photos. Il est toujours souriant, etc. Et moi, c'est une des rares photos de Mac DeMarco où il est triste dessus et où il fait la gueule. Pourquoi? Parce qu'il venait de se faire voler son laptop à Hambourg lors de la date précédente. Il y avait tout son prochain album qui était sur l'ordi. Il n'avait pas fait de sauvegarde, en fait.
C'est dingue, ok.
Donc, il a perdu tout un album dans son ordi parce qu'il s'est fait voler en Allemagne. Et il était complètement en galère. Et puis, il n'avait rien programmé. Puis, il ne savait pas où dormir. Et il était avec 3-4 mecs de son band. Et en fait, il me dit, gars, est-ce que ça te dérange si on dort chez toi ce soir, tu vois? Et moi, je lui dis, en vrai, j'aurais aimé, tu vois. Mais à cette époque, j'habitais chez ma mère à Bobigny. Et en fait, c'est impossible de ramener le gars à Bobigny, quoi. Tu sais, tu prends la ligne 5.
C'est son ambiance un peu quand même.
Ouais, mais tu sais, tu le ramènes chez ta mère, tu sais.
C'est hyper chelou.
Non, mais tu sais, elle dort, elle se réveille d'un coup, il y a Mac DeMarco qui est là.
Tu fais comme moi, tu le fais dormir dans le couloir.
Ouais, voilà. C'est vrai qu'Aline nous écoute dans le couloir. Et du coup, je lui dis, bah, gars. Et en fait, tu sais, mais ce côté aussi, moi, j'arrivais en mode photographe cool parce que c'est lui qui avait demandé à prendre à ce que je le photographie.
Ouais.
Parce que mes photographies étaient publiées dans un magazine new-yorkais de mode qui était très connu, qui s'appelle V Magazine. Et tu sais, ça faisait loser de lui dire, ah non, mais j'habite chez ma mère, moi. Tu sais, je voulais pas lui dire ça, en fait, c'était relou, quoi, tu vois. Et du coup, j'avais dû inventer, je crois que de mémoire, j'avais inventé un mytho comme quoi mon appart était en travaux ou un truc comme ça. Je pouvais pas, tu vois. Et du coup, j'avais dit non, il avait insisté, et en vrai, je regrette, j'aurais dû le faire. En fait.
Oui.
J'aurais dû le ramener chez ma mère, ça aurait été franchement une super anecdote.
De quoi, ouf.
Donc voilà. On va enchaîner sur le film de Mehdi. Mehdi, qu'est-ce que tu nous as choisi comme film aujourd'hui?
On est d'accord que les émissions du type Cauchemar en cuisine, ça, on peut pas en parler, ça.
Ah bah pas... non, c'est des films,
ça non. Ça non, parce que non, ça, ça que... j'aime bien. t'aimes bien Cauchemar en cuisine aussi, hein?
Ah moi j'adore.
Pareil, on est des fous de Cauchemar en
alors,
cuisine.
Alors Cauchemar en cuisine, j'aime quand il chie sur la bouffe.
On regarde tout le début.
On aime les deux premières parties.
Voilà, c'est ça. Quand ça tout le monde en fait est oui. Là-dessus. C'est mais que oui. Les deux premières parties quand il est voilà et après le reste quand ça devient
le coaching on s'en fout.
On s'en fout. Non,
ça me fait penser à l'épisode du muffin top de Seinfeld.
Oui.
On n'aime que le haut du muffin, on n'aime pas le.
On n'aime pas le reste.
C'est un peu pareil avec Cauchemar en cuisine. La fin, tout le monde s'en branle.
Mais je m'en fous moi. En plus c'est même lui qui coach maintenant. C'est le chef belge là, je m'en fous lui. Moi j'aime Philippe.
Ouais, d'accord, le jeune.
Ouais.
Mais ce qui est marrant, tout ce qu'il n'aime pas, moi je le mange.
Ah oui.
Tous les trucs dégueulasses là.
Ouais, parfois il y a des trucs quand même.
C'est un peu compliqué. Mais ouais. Bon, après, il paraît qu'il fait pas très bien la cuisine, Mehdi.
Qui moi
Mehdi, ouais. Mehdi fait rarement la cuisine.
Oui, non, en plus.
Moi j'ai une cuisine. Si, non, c'est faux en plus.
Bah, non, mais en général, c'est moi qui fais la cuisine pour Mehdi et non l'inverse dans notre amitié.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui.
T'as beaucoup réfléchi.
Alors que Johan fait la cuisine, par contre.
Ouais, bah, moi je t'ai fait ma fameuse recette de pâte au citron. Mais c'est...
Ouais, Johan fait des pâtes.
Pâte au citron.
Ah, délicieux.
Oui, bah, c'est bien connu. En Italie, j'avais mangé ça d'ailleurs.
La pasta al limone.
Mmh. Ouais,
bien sûr.
C'est un classique.
Et donc, oui, Cauchemar en cuisine, sinon. Mais très bonne émission de.
Ouais, c'est une des rares où je prends plaisir à regarder.
Édition française ou édition américaine?
Non,
française.
Française, pas avec Gandom Razzé.
Alors, une autre que.
C'est qui le patron?
Ouais, ceux qui ont la rêve, c'est très drôle. Non, il y en a une que j'aime. Parfois, quand je tombe dessus, je l'ose parce que ça me met en appétit. Même si maintenant, je sais pas combien ils en sont à combien d'épisodes, un dîner presque parfait.
Ah, mais ouais.
Mais parfois, je regarde. Je
mais c'est devenu un peu trop real.
Alors, non, mais alors, ça dépend le casting.
Ouais.
Ça dépend de la gueule du casting.
Je suis d'accord.
Ouais. Mehdi.
Alors, je sais pas comment vous annoncez le film. Alors, déjà, ça va être un film, voilà. C'est une sorte d'hommage. D'accord, que j'ai envie de faire vis-à-vis de ce film et de tout ce que ça comporte, les acteurs et aussi l'histoire tout simplement. Donc j'hésite, je vais peut-être vous lire le synopsis. Pourquoi tu me marres toi?
Le synopsis.
On dirait une maladie vénérienne.
Le synopsis.
Il y en a un autre aussi tout à l'heure que t'es mort. Tout à l'heure aussi il a ripé sur un mot, c'était drôle.
Ah, j'ai plus en tête.
Putain merde.
Ah, bien évidemment ça sera coupé tout ça.
Le synopsis.
Ça c'est trop grave ça.
Le synopsis, on est obligé de le garder franchement.
T'es obligé de le couper ça.
On est obligé de le garder, c'est drôle. Le synopsis.
Moi, je fais surtout pour Jeanne, parce que toi tu es au courant en fait du.
Alors, Mehdi m'en a parlé hier soir, il m'a donné le titre de son film, mais je crois que je l'ai jamais vu. Je crois que je l'ai pas vu.
Mais tu connais l'histoire.
Bien sûr.
Alors, je vais essayer de deviner, vas-y.
Le 23 juin 1991, la veuve d'un industriel en équipement pour l'automobile, Guylaine Marshall, 65 ans, est tuée à coups de chevron de bois et de couteau. Son corps est découvert le lendemain dans une pièce en sous-sol de sa villa de Mougins, dont la porte a été barricadée et où on trouve deux inscriptions en lettres de sang.
Omar m'a tué.
Exactement.
Bien vu, oui.
Donc ce film-là qui ressort du coup sur Netflix. Alors moi la première fois...
Attends, qui ressort, donc c'est un film d'époque. Hein.
C'est un film d'époque, oui, qui date de 2012.
Ok, il n'y a pas eu d'autres films Omar m'a tué.
Non. Donc réalisé... Donc...
C'est Roche Dizem.
Roche Dizem, exactement. Oui. Roche Dizem, avec...
Avec Roche Dizem.
Et non.
Je sais pas.
Tu l'as pas vu?
Si, je l'ai vu, mais ça m'a pas... Si, Samy Bouajila.
Voilà, Samy Bouajila.
J'aime bien cet acteur.
Donc en fait, moi aussi, c'est pour ça d'ailleurs que... Ouais. La première fois quand il est sorti, c'est donc interprété par Samy Bouajila, moi je me suis dit, bon bah c'est un truc que je vais forcément aimer, parce que j'aime l'histoire déjà, l'enquête qui est assez incroyable, et j'aime l'acteur. Donc je l'avais regardé pour ça à l'époque, et il est ressorti sur Netflix, et je me suis dit, bah je vais regarder encore ce film, encore pour Samy Bouajila, parce que c'est un acteur que j'adore, et je voulais rendre un hommage justement à Samy Bouajila. Et à Roche Dizem aussi, qui réalise extrêmement bien ce film.
Ah, c'est fini.
Ouais, mais il rigole, il se marre, ce
con. Tu rigoles pas.
Parce qu'il est trop sérieux, c'est pas lui.
Mais laisse-le, il est sérieux.
Je rendais de sérieux, quand même.
Alors non, en gros, d'accord. Alors, pour recadrer l'ensemble, c'est effectivement, non pas c'est un synopsis, mais c'est avant tout une histoire vraie. C'est un véritable meurtre. Ouais. Qui a défrayé la chronique dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises.
Hyper marquant.
Où en gros, on a retrouvé une vieille dame bourgeoise morte avec une inscription au mur qui disait donc « Omar m'a tué ». Mais tout ce qui faisait le sel de cette enquête, c'est qu'il y avait une faute d'orthographe à « Omar m'a tué ».
Oui, exactement.
Voilà. Et donc, en gros, c'est
là tout sel. Peu probable que ce soit elle.
C'était peu probable que cette femme éduquée bourgeoise fasse une faute. Donc, les soupçons... sont très vite tombés sur le jardinier
Omar Haddad, qui Omar était Haddad. Le jardinier de Madame Marshall, donc jardinier. C'était son jardinier depuis à peu près 5-6 ans. Donc c'est Omar Haddad, c'est une personne. Voilà, c'est une personne qui parle pas très bien français. Donc il y a eu autour de cette enquête, effectivement, des relents de racisme.
Bien sûr.
Et ce qui a été triste, c'est que il a fait de la prison, plus de 7 ans de prison.
C'est terrible.
Je pensais qu'il avait fait plus que 7 ans.
7 ans, c'est déjà énorme.
Non, c'est énorme, mais je pensais que c'était un truc genre 20 ans.
Et nous, on tiendrait 7 heures.
Mais je crois que je confonds avec Patrick Dils, qui lui a vraiment morflé.
Oui, pas aussi,
lui.
Ouais.
Je sais pas s'ils ont fait un film sur cette histoire-là. Non,
non plus.
Je sais pas.
Bon, bref. Donc, Omar Haddad, et donc, il a été gracié, en fait, par Jacques Chirac. Et ce qui est incroyable, c'est que, certes, il a été gracié, mais il n'a pas été innocenté encore. Et bien, aujourd'hui encore. Il n'est toujours pas innocent dans cette histoire.
Il vit en France ou il est reparti? Je crois qu'il était marocain, je crois, non?
Il vit en France encore dans le Var.
Ok.
Avec sa famille. Et son combat, qu'il continue encore aujourd'hui, c'est pour faire reconnaître son innocence de manière claire. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de bourdes dans l'enquête.
Parce qu'on n'a toujours pas trouvé le tueur, finalement.
Non, on n'a pas trouvé le tueur. Il y a eu des petites rumeurs, en fait, comme quoi Omar, ça aurait été un autre Omar. Parce qu'il y avait un autre Omar qui existait dans l'entourage de cette
dame. Il n'a jamais été retrouvé, ce gars?
Si, il a été retrouvé, mais en fait, il n'y a pas de lien qui ont été fait de manière très claire. De toute façon, le corps a été très vite incinéré, donc déjà au niveau des preuves, c'était compliqué.
Il est en mode enquêteur sérieux.
Ouais, j'ai l'impression d'être l'accusé là.
Je me suis beaucoup renseigné sur.
Mais ça se voit, hein, ça se voit.
Je connais tout maintenant sur. Au niveau des traces ADN, il y a bel et bien des nouvelles traces ADN qui font ressortir 5 nouvelles personnes. C'est là-dessus d'ailleurs qu'avec son avocat, avec son avocate plutôt, parce que non, c'est une avocate, Omar Haddad a pensé. Apporter suffisamment les preuves, ça a été rejeté.
Alors, tu sais pourquoi déjà on a le sentiment profond qu'il est innocent? C'est parce qu'il continue de se battre. Et je me souviens d'un truc qui m'avait marqué dans l'affaire O.J. Simpson, par exemple. Évidemment, tous les soupçons portaient vers O.J. Simpson et sa culpabilité. Et O.J. Simpson, lorsqu'il avait été, par miracle, innocenté pour cette affaire, il avait dit « Maintenant, mon combat va être de trouver le meurtrier de ma femme. » Mais comme évidemment, on sait que c'est à 99% lui... Bon bah faut avoir le courage après toute sa vie de faire ça alors qu'on sait que c'est, tu vois, c'est soi-même.
Il a lâché l'affaire, non?
Et voilà, et 2 jours plus tard il joue au golf et il a jamais essayé de tout. Donc en fait ça prouve que c'est bien lui.
Mais dis-toi qui es un fin enquêteur, quelle est ton intime conviction sur cette histoire?
Bah, c'est tout le drame de cette histoire. C'est très compliqué de se faire une intime conviction. Mmh. C'est sûr, c'est pas lui. Ça, c'est même pas une conviction, c'est une certitude.
Mais alors, j'ai une question pour toi qui me semble.
Alors que Dill.
Non, mais arrête.
Non, je rigole.
C'est vraiment au faciès, quoi, pour pas te dire. Non, toi qui a l'air très. Qui allait sur le sujet, j'ai envie de te poser une question. Donc, Omar Mathieu a été écrit sur le mur avec des doigts, n'est-ce pas? Mmh. Et via l'écriture, il est impossible d'avoir des traces ADN et des empreintes.
Ils les ont.
Ah, ils ont les empreintes.
Oui, c'est ce que je te dis. Ils ont des nouvelles. Ils ont réussi à récupérer des nouvelles traces ADN. 5 personnes ressortent de ces traces, mais l'enquête n'a pas été plus loin pour le moment. Et ça n'ira sûrement jamais plus loin. Il doit y avoir un gros dossier. Je sais pas ce qu'il y a derrière.
Et quel était le mobile?
Pour officiel, c'est tout simplement en fait une histoire d'argent.
Et le modèle officiel, le mobile officieux, pardon, parce que t'as l'air expert.
Tu l'embêtes, hein,
je fais une chronique sérieuse.
Il est sérieux, laisse-le.
De toute façon, je reviens à Sami Bouajila qui interprète magnifiquement le rôle.
C'est lui qui fait Omar Haddad.
C'est lui qui fait Omar Haddad.
Parce que Roche Dizem réalise.
Roche Dizem réalise, la réalisation est incroyable aussi. Et donc, Sami Bouajila qui interprète le rôle, on s'y méprend. C'est vraiment, là pour le coup, un travail d'acting.
Et je crois qu'il y a, un interview intéressant pour ceux qui verront le film. Et qui voudront en savoir plus, il me semble dans mes souvenirs qu'à l'époque, Omar Haddad avait été invité dans Tout le monde en parle avec Ardisson. Et l'interview est pas mal parce qu'il est franc du collier, puis les vraies questions sont posées à fond, quoi, tu vois. Mmh. Mais non, mais en fait, parfois j'y pense et je me dis, je crois qu'une des choses les plus terribles sur Terre, c'est d'être en prison quand on est innocent, quoi. Mmh. Ce sentiment d'injustice, de dire putain, mais c'est pas moi. Et en fait, je pense même qu'il y a un truc où tu te dis, mais attends, mais ça se trouve, c'est moi en fait. Et parce que ça te rend tellement dingue.
Regarde ce film parce qu'on le voit justement.
Mais je crois que je l'ai vu, et comme Johan, il m'a pas marqué outre mesure. Ouais, je m'en rappelle des années plus tard, mais je vais le revoir. Tu vois. Je vais voir ou revoir ce film.
Moi, je vais le revoir pour essayer d'aider les enquêteurs. Parce que je pense que j'ai la capacité à le faire.
Il peut pas s'en empêcher, hein. Et tu peux te mettre en mode off.
Je peux pas.
Alors, pour vous dire qu'on était à Lille, et en fait, Johan a cette particularité de jamais être sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des vannes toutes les deux secondes, et à un moment, il m'a dit, on était au McDo, il lui a dit, mets-toi en mode off.
J'y arrive pas, c'est une malédiction. Ouais, quoi. Faut se mettre en mode dans les pires moments professionnels ou amoureux. C'est
terrible. Ah, même amoureux.
Ah ouais.
Tu taquines ta copine.
Mais parfois, je fais des blagues, tu couperas si tu veux, mais parfois, je fais même des blagues au lit, hein.
Ah, c'est intéressant.
Oui.
Comme
bah, ma meilleure blague, c'est de faire semblant de jouer. Tu vois, et genre, au bout d'une minute, et je fais. Oh, oh, oh. Et genre, bah, je fais, oh, j'ai fini. Et la meuf, je fais. Et non, surprise. Et là, j'enchaîne après pendant 3 heures.
Bonne blague.
Ouais, j'aime bien.
combien tu notes sur 10?
Ah, je le fais monter facilement à 8.
Bien sûr. Pas mal.
Je vais être étonné.
Oui, parce que c'est pas un film qui m'a marqué tant que ça, mais je comprends que tu
aies regardé pour la performance d'acting de Sami Bouajila et la réalisation de Roche Dizem.
De Roche Dizem, super. Les deux, je les aime beaucoup, donc je vais le revoir avec plaisir.
Alors, tu nous conseilles quoi comme son aujourd'hui, Mehdi?
J'avais pas de son particulier, donc j'ai été voir sur YouTube ce que j'ai écouté dans la journée et j'ai vu là, bah, j'y vais, Block Party, Banquette.
Très bien, merci. Eh mais attends, mais j'ai pris en photo Block Party.
Ah ouais. Ah
ouais. On parlait de photo.
De toute façon, t'as tellement pris de monde que.
Non mais en plus, je crois que t'étais là. Mais ah non, toi t'étais là pour. Non, moi j'étais pas sûr. We have been. Ouais. J'ai confondu. Mais oui, Block Party, je vous avais pris en photo pendant le festival Pitchfork, je crois.
Et tu te rappelles, j'ai été à l'école Kitsune.
Je déteste. Avec Jeanne, on n'aimait pas les gens qui mettaient un sweat. J'ai été à l'école Kitsune, ça nous énerve. Et bon, je pense que c'est une bonne conclusion, ça.
Oui.
Bah écoutez, on espère que ces trois films. Vont vous donner envie. On avait donc End of Watch 2012, réalisé par David Ayer. On a Johan.
Les Lois de l'Attraction 2002, réalisé par Roger Avery.
Et Mehdi, on a.
Omar Mathieu.
Réalisé par Roche Dizem. Et sorti quand ce film?
2012.
Non, 2011.
2011.
T'as pas eu bonne chance.
T'as fait la bonne enquête.
Oui. Exactement.
Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans une semaine. Bye tout le monde.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.